Bleu 7930 sur France Inter.
Il est 9h09, Sonia De Villers, votre invitée a vu le soleil se lever sur l'Acropole.
Bonjour Andrea Marco Longo. Vous voici, bonjour.
Bonjour.
Vous voici au troisième étage d'un musée devant les marbres du Parthénon. Vous êtes la première qui a pu passer la nuit dans cet endroit et la négociation a été longue.
Oui, je ne vais pas dire même la dernière, je crois. Oui, c'était très long. Mon éditeur était très patient. On a attendu presque un an. Oui. L'autorisation et finalement c'est arrivé. Je me rappelle encore le regard des gardiens du musée qui se demandaient franchement qu'est-ce qu'elle fait.
Ma nuit au musée, c'est la collection des éditions Stock qui envoie des écrivains, des chercheurs, des intellectuels passer la nuit dans un musée et on en tire un livre. Le vôtre s'appelle « Déplacer la lune de son orbite ». Je vous lis les mots du comte de Choiseul, un Français, comme son nom l'indique. « Enlevez tout ce que vous pourrez. Ne négligez aucune occasion de piller dans Athènes et dans son territoire tout ce qu'il y a de pillable. N'épargnez ni les morts, ni les vivants. » Les Français sont arrivés à Athènes, bien décidés à voler tout ce qu'ils pouvaient voler. Les Anglais étaient passés avant eux.
Voilà, bienvenue au début du 19e siècle. C'était exactement comme ça. On avait l'ambassadeur français d'un côté et après c'est arrivé un autre ambassadeur anglais, cette fois-là. Et voilà, c'était le regard d'une époque. On regardait la Grèce comme une énorme boutique à pierre où c'était tout à fait normal prendre et tout ramener en Europe.
Oui, c'est ça. Voilà un hymne delphique à Apollon. Notre réalisatrice Lucie Le Marchand a trouvé un disque de reconstitution de musique hellénique. Là, c'est l'Atrium Musicae. Andrea Marco Longo, vous êtes plongée, non pas dans l'Antiquité, mais justement dans ce 19e siècle où l'Europe riche et développée va se montrer avide, va se montrer vorace vis-à-vis des traces de l'Antiquité. Vous avez passé la nuit avec un fantôme, il s'appelle Lord Elgin.
Oui, c'est tout à fait comme ça. Moi, je suis helléniste des formations. J'ai passé la plupart de ma vie à étudier la Grèce antique, le grec ancien, et tout ça jusqu'à quand, il y a un an, avant de placer mon lit de camp au troisième étage du musée de l'Acropole, j'ai découvert cette histoire incroyable, romanesque, passionnante et très symbolique de cet ambassadeur anglais, Lord Elgin, qu'il est universellement connu comme le voleur. C'est lui qui l'a vraiment volé.
Vous dites, Andrea Marco Longo, il fut l'assassin de l'intégrité du Parthénon et de l'idée même de la Grèce. C'est dire que piller des antiquités, c'est plus qu'un vol matériel. C'est piller un imaginaire, dites-vous.
Oui, tout à fait comme ça, parce que l'identité, ce n'est pas que des idées, quelque chose d'immatériel. C'est fait avec de la pierre. Dans le cas de la Grèce, les Parthénons, c'est les symboles, c'est la synthèse de la Grèce. Le prendre et l'amener ailleurs, c'est vraiment le vol de l'idée d'un peuple entier. La Grèce déclare qu'elle ne peut pas s'imaginer sans le Parthénon.
D'ailleurs, vous intitulez le livre « Déplacer la lune de son orbite ». C'est dire, il fallait toucher à la lune ou au soleil, mais on a touché à la lune et au soleil. Alors, Thomas Bruce, septième comte d'Elgin, il est nommé en novembre 1798 ambassadeur extraordinaire et ministre plénipotentiaire de Sa Majesté britannique, c'est George III, à l'époque, auprès de la sublime porte de Selim III, sultan de Turquie.
Oui, il ne faut pas oublier qu'à l'époque, la Grèce n'était pas un État indépendant, elle ne l'était plus depuis des siècles. Elle faisait partie de l'Empire ottoman et tout ça avait l'air de surtout pas gêner l'Europe qui n'avait jamais envisagé à la Grèce comme un État souverain indépendant.
Et l'Angleterre est alliée de la Turquie, donc justement, Lord Elgin va recevoir un traitement de faveur depuis de la part des Turcs.
Oui, quand on dit de faveur, on dit il a reçu un cadeau bijoux, des diamants, des animaux, des étoffes, jusqu'à quand il s'est dit, bah, peut-être que je peux même demander quelque chose en plus, le marbre du Parthénon.
Le marbre du Parthénon. Alors, voilà Lord Engine. Que connaissent les Anglais de l'Antiquité grecque?
Bah, moi, je dirais...
Avant son départ.
Presque rien, comme... Presque personne en Europe. Finalement, nous, on dit toujours, ah, nos racines sont grecques, nous venons de là, nous sommes les héritiers de la culture grecque et latine, mais au début du 19e siècle, même pas Athènes. Cette antiquité grecque était connue à l'époque. Même Athènes, apparemment, il n'y avait qu'un seul vieux monsieur qui connaissait les Grecs anciens. Donc, c'était une Grèce tout à fait imaginaire, ce qu'on connaissait en Europe. Une Grèce faite des poèmes d'Homère, bien sûr, des tragédies,
de la mythologie.
De la mythologie, mais on n'avait aucune connaissance, ni d'ordre archéologique, ni d'ordre historique.
C'était... Alors, Lord Elgin va financer, hein, en prenant, et c'est très important pour la suite, en puisant dans la fortune familiale, il va financer une expédition, une délégation d'artistes et d'archéologues, qui arriveront d'ailleurs avant lui à Athènes. Il les envoie sur place, peut-être rien que le nom de son bateau, Phaéton.
Oui. Il ne faut pas oublier qu'effectivement, Lord Elgin était ambassadeur à Constantinople, pas à Athènes. Il n'avait jamais mis le pied à Athènes quand le premier marbre était détaché, arraché du Parthénon. Ce sont ses ouvriers à Athènes qui commencent tout d'abord avec des dessins et puis ils se sont dit peut-être les originaux sont mieux que les copies.
Non mais racontez, parce que vous le racontez dans le livre Andrea Marcolongo, racontez comment ça s'est passé d'arracher les frises du Parthénon, parce que c'est vraiment une éventration, il n'y a pas d'autre mot.
On parle toujours de Lord Elgin, mais c'est vraiment l'esprit d'une époque entière. C'est début du 19e siècle qui regardait à la Grèce en général, à l'Orient en général, au monde comme une espèce de bazar. On a mentionné l'ambassadeur français. Les Français, ils ont toujours essayé de monter au sommet de l'acropole. Mais les sultans n'avaient jamais donné l'autorisation auparavant. Pourquoi ? On croyait que les Européens pouvaient espier, voir les honnêtes femmes turques depuis le sommet du Parthénon. Ça, c'était la raison pour laquelle. Donc, même pas les Turcs n'avaient aucune considération d'ordre artistique. Pour eux, l'acropole, c'était juste des pierres, des édifices très solides qu'ils n'ont pas hésité à réutiliser.
Mais les Anglais ont eu le droit, eux, de monter au sommet de l'acropole.
Oui, et pourquoi ? Ils ont eu ce droit parce que Napoléon avait perdu l'Égypte. Et alors voilà que l'Angleterre obtient une position de force auprès des Ottomans. Et le sultan s'est dit, j'ai offert des diamants à cet ambassadeur anglais, pourquoi pas des vieilles pierres ? Et comme ça, il obtient cette autorisation qu'on appelle firman en turc, c'est bizarre parce que cette autorisation n'a été jamais retrouvée. Ça n'existe qu'une copie en italien. En plus, moi je suis italienne, alors ça se trouve encore plus symbolique. Mais finalement, ce papier n'a été jamais retrouvé.
Ouais. Ouais. Et les voilà qui escaladent les colonnes à main nue, qui escaladent pour arracher la pierre. On va dire un mot avant de parler de votre histoire à vous, Andrea Marcolongo, mais on va dire un mot de comment a fini Lord Elgin, parce que dès le départ, quand je dis le nom de ce bateau, Phaéton, c'est le nom du fils du dieu soleil qui incendie tout sur son passage. Et au fond, vous racontez une forme de malédiction divine, hein. Nous sommes en Grèce, il y a la mythologie, il y a Athéna qui veille sur ce temple de l'Acropole, et puis il y a les tragédies grecques qui ne sont pas très loin.
Bien sûr, la déesse Athéna n'était surtout pas ravie de voir ses marbres quitter la Grèce. Et alors voilà qu'une malédiction, la malédiction de Minerve, ça c'est une définition de Lord Byron, vraiment s'est abattue sur ce pauvre ambassadeur anglais qu'il a tout perdu à cause de ses marbres, son argent, comme vous avez dit tout à l'heure, c'était lui qui l'a financé, il a sponsorisé sa propre mission. Il a perdu sa femme, qui n'a pas hésité à le quitter. Il a perdu sa position publique et politique, il a perdu son poste. Il est mort à la fin, il est mort endetté.
Mais il est mort, et ça c'est vraiment un passage fascinant du livre, il est mort gangréné. Il a fini par ressembler à ces vieux marbres abîmés qu'il avait rapportés, qu'il avait volés à la Grèce. Il a fini par perdre des morceaux de son visage. Toute sa peau est devenue grise et mitée par la maladie.
Et exactement, c'est une maladie extrêmement symbolique. On a même du mal à le croire qu'il est mort exactement comme le tête de statue qu'il n'a pas hésité à couper pour le mettre dans des boîtes et les ramener en Angleterre.
Oui, c'est ça. Il a démembré hein, toutes les statues qu'il a rapportées, oui. Les marbres. Tout a été découpé en morceaux pour être chargé dans des caisses, chargé sur des navires dont la plupart d'entre eux, en plus, ont fait naufrage.
Exactement, parce que ça, ce n'est pas forcément une histoire des pillages. Les marbres n'étaient pas forcément pillés, ils en étaient arrachés, ils ont été coupés, on a utilisé des ciseaux, tout type d'outils pour les arracher au Parthénon. Les marbres ne sont pas simplement, comment dire, ils sont partis en sacrant du Parthénon. Et voilà qu'on était arrachés, encassés dans des et ramené en Angleterre par voie maritime. À l'époque, où il n'y avait que des pirates dans la Méditerranée. Et il y a eu, je ne sais plus combien de naufrages, mais beaucoup. Et on estime que le 20% des marbres est encore là, au fond de la Méditerranée.
Au fond de la Méditerranée. Et ben, il est 9h19, vous écoutez France Inter. Et on se demande comment vous, Andrea Marcolongo, autrice italienne, on l'entend à votre accent, s'est plongée, s'est passionnée, justement, pour cette culture de la Grèce ancienne.
Looking like some clear skies, I finally opened up my eyes. Living in a lost time, the dawning of a brand new man. So much blood on our hands. King and queen of being lonely. Children of the empire see that we're all lost. There comes a cause walking in the labyrinth without love. How much can you take? And when are you gonna be okay? Gain control of what we made instead of being.
Wyeth Blood, Children of the Empire.
France Inter, le 7-9-30, l'interview de Sonia De Villers.
Dans Athènes, l'Acropole est une île dont personne ne peut gravir sans émotion les très hautes marches qui mènent au Parthénon. Ces colonnes, dont on sait qu'elles ne sont pas droites, si elles sont bombées un peu, c'est que la vie antique, a exercé sur elles une pression qui ne finira jamais. Cette vie antique, dans quelques semaines, le musée de l'Acropole en révélera un nouveau fragment. Car dans les salles aujourd'hui secrètes, qui seront ouvertes au public le 1er mars, le musée de l'Acropole présentera une quarantaine de chefs-d'œuvre qui tous ont été les témoins et les victimes d'un moment dramatique de l'histoire d'Athènes.
Réouverture du musée de l'Acropole en 1959, 1er mars 1959. Et vous, Andrea Marcolongo, qui publiez « Déplacer la Lune de son orbite » aux éditions Stock, vous avez dormi dans le nouveau musée de l'Acropole, réouvert en 2009, après des années et des années de travaux, parce qu'il est à l'emplacement, évidemment, de sites archéologiques précieux qui peuplent les sous-bassements de ce musée construit par un architecte suisse qui s'appelle Bernard Tchoumi. À la réouverture du musée en 2009, la question a été posée. Et alors, l'Angleterre, elle va rendre les frises du Parthénon ? Eh bien, toujours pas.
Toujours pas, même si, moi, personnellement, je garde l'espoir. Pour moi, c'est un rêve, c'est même une sorte d'engagement politique. Aujourd'hui, je crois qu'on ne peut plus se permettre d'avoir dans nos musées européens les résultats de pillages, de vols.
Qui sont nombreux, très nombreux.
Oui, là, la Grèce, c'est une histoire, c'est toujours la première, mais après, il y a tout ce que ça concerne l'Afrique. Alors, oui.
90% de l'art africain est détenu par des musées européens.
Tout à fait. C'était un sujet que moi, je ne connaissais pas du tout, que j'ai découvert grâce à cette nuit au musée de l'Acropole et que ça me passionne de plus en plus, que je trouve très urgent.
Alors, les restitutions ont commencé ?
Oui, ils ont commencé. Oui. Si on revient au Parthénon, c'est bizarre parce que j'ai commencé à écrire ce livre il y a un an et là, dans les dernières 12 mois, l'Italie a tout rendu, le Vatican.
L'Italie a tout rendu ?
Oui. Le Vatican a rendu aussi.
Et en bonne italienne, vous faites la différence. Il y a ce que le Vatican a rendu et ce que l'État italien a rendu.
Oui, surtout parce que là, c'est un peu plus, c'est subtil, mais oui, le Vatican, c'était le pape, donc c'est une autorité religieuse, ce n'est pas une autorité civile. Mm-hmm. Dans le cas de l'Italie, c'était quelque chose, ça peut être un précédent. Non, si l'Italie a rendu, a trouvé la façon même législative de le faire, pourquoi pas ne l'appliquer pas le même cas à la France,
l'Allemagne
peut-être.
L'Allemagne a rendu.
Et alors, on attend les autres.
Les Pays-Bas ont rendu. Il y a toujours deux frises du Parthénon en France, au Louvre.
Très beau, au Louvre. On n'oublie pas.
Et l'Angleterre ne bouge pas. Pour l'instant, la Grande-Bretagne ne bouge pas. Il y a un nouveau souverain, peut-être que ça va changer. Et alors, vous, italienne, exilée volontaire en France, qui n'avez gardé comme seul lien avec l'Italie, au fond, que le fait d'écrire en italien, ce livre est publié par un éditeur français, mais il a été écrit en italien et vous avez eu un traducteur qui l'a traduit en France. Qu'est-ce que la Grèce a occupé comme place, comme fonction ? Qu'est-ce que cette culture hellénique a occupé pour vous comme place dans votre imaginaire et dans votre histoire ?
C'est une très bonne question pour laquelle je crois de n'avoir pas encore trouvé la réponse. Parfois je me dis, c'est une question d'orgueil pour moi, la Grèce. Je parle toujours d'amour, mais c'est plutôt une question d'orgueil. Parfois je me dis, c'est un transfert, comme on dit, en psychanalyse. Moi, je suis italienne, mais j'ai perdu mes racines en Italie, j'ai perdu ma famille, mais je suis très content d'habiter en France, mais je ne suis pas française. Et alors peut-être que je me suis construite un troisième pays, un troisième monde, la Grèce, dont je ne connais pas la langue, dont je reste muet, tout un pays imaginaire, voilà.
On peut revenir sur l'orgueil. Pourquoi l'orgueil ?
Parce que aujourd'hui, la Grèce, en général, l'Antiquité, c'est devenu un sujet de, il faut le conserver ou pas, il faut continuer à faire du grec et du latin ou pas. Moi, je suis, il y a des journaux qui m'appellent l'héroïne de la Grèce, mais finalement, je ne suis que la dernière. Moi aussi, je suis comme l'Ergine. J'ai tout pris à la Grèce, je n'ai pas pris des marbles. Alors...
Et au fond, parce que vous le racontez, et ça se dessine en filigrane dans ce texte que vous publiez aux éditions Stock, vous venez aussi d'une famille, et vous avez effectué un grand trajet pour vous hisser culturellement, pour vous hisser socialement. Votre père avait des origines très modestes, et au fond, est-ce que cet orgueil-là... c'est pas la fierté du savoir, de la connaissance, de ce qui fait qu'on s'élève.
Oui, c'est ça. Dans ma famille, personne n'avait étudié ni le grec ancien, ni rien d'autre. Et voilà, c'est effectivement quand il y a un an, je me suis retrouvée tout seule la nuit au musée de l'Acropole, je n'ai pas pu m'empêcher de penser à mon père qui n'avait jamais fait des études, qu'il me racontait quand il était un garçon, il allait à l'école à pied, sans chaussures. Et moi, j'étais là, j'ai même enlevé mes chaussures dans la nuit, face au marbre sculpté par Fidia il y a 2550. Je me suis dit, est-ce que là, c'est encore une histoire de vol? Est-ce que moi, c'est la syndrome de l'imposteur, version 2022? Je suis une autre Lord Elgin qui l'a tout pris à la Grèce pour monter sa petite vie à Paris, ou c'est vraiment de l'amour sincère?
Mais vous, vous finirez béni et non pas maudit comme Lord Elgin.
On va voir.
Andrea Marcolongo publie Déplacer la Lune de son orbite. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Et merci Sonia de Villers.